possibilité d'être la tête d'affiche de cet épisode 2 du podcast personnel et confidentiel de la NDRH. On te présente quand même, tu es responsable international du développement RH chez Chloé. Et Chloé, pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, c'est une maison de mode française fondée en 1952 qui a la particularité de faire du prêt-à-porter de luxe. Tu me corriges si je me trompe. Et donc, Maison Chloé appartient aujourd'hui au groupe Richemont. Dans le monde, Maison Chloé, c'est environ 1100 collaborateurs.
Exact.
Est-ce que c'est bien ça? Et vous avez une présence commerciale dans une dizaine de pays dans le monde, avec 90 boutiques Chloé dans le monde et une trentaine de Cie by Chloé, si je ne me trompe pas.
Tout
c'est
à fait.
Tout est juste. Depuis 2018, tu es responsable international du développement RH chez Chloé. Voilà. Bienvenue donc pour ce podcast. La première séquence dans ce podcast, ce sont des questions courtes et des réponses courtes. Si tu dois nous dire ce que tu as dans ton bureau. Dans ton bureau, il y a quoi aujourd'hui ?
Dans mon bureau, il y a un cactus qui a survécu tous les confinements où je ne lui ai pas apporté d'eau. Donc, il trône fièrement en face de mon bureau. Il y a aussi un chat en porcelaine chinois, tu sais, qui a la patte droite qui va d'avant en arrière, qui est supposé nous apporter bonne fortune. C'est un souvenir d'un événement qu'on avait organisé chez Chloé pour sensibiliser à la culture chinoise. Et il y a un troisième objet qui me regarde au quotidien. C'est un souvenir, c'est mon trophée des Next Leader Awards que j'ai gagné en 2017 et qui m'a été remis par Les Échos. Et c'est un super, super souvenir qui était vraiment un reward pour tout ce qu'on avait fait chez Unibail Rodamco et pour l'engagement que je pouvais avoir à mon titre pour la fonction RH. Voilà, ces trois objets me regardent au quotidien.
C'est bien d'avoir ce souvenir aussi avec toi. Si tu n'avais pas été RH, tu aurais pu être ou tu aurais voulu être ?
Je pense que j'aurais été professeur. J'adore l'enseignement et je continue à enseigner d'ailleurs les ressources humaines, que ce soit à l'ESCP ou à les business schools de la Sorbonne, que je fais d'ailleurs la semaine dernière. Donc je pense que j'aurais été enseignant. J'adore transmettre.
D'accord, on reviendra là-dessus aussi parce que c'est vrai que ton parcours est vraiment irrigué par ce besoin aussi de transmettre et tu le fais très bien d'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure. Tes sources d'inspiration ou les personnes qui t'ont inspiré, ceux que tu pourrais qualifier de mentors?
J'ai mes deux anciens managers d'Unibail qui me viennent tout de suite en tête. Et j'ai eu de la chance parce que c'était deux managers non français, ce qui illustre à fond cette société d'ailleurs. Un manager espagnol pour commencer, qui m'a recruté chez Unibail et qui m'a appris la spontanéité et le rebond espagnol, si je devrais dire ça pour résumer. Et ensuite, ma deuxième manager chez Unibail, qui est néerlandaise, et qui, elle, m'a transmis cette passion du feedback. Et beaucoup de mes collaborateurs et collègues chez Chloé me reconnaissent pour ça, on en reparlait aujourd'hui d'ailleurs, et vraiment c'est elle qui m'a tout transmis sur ce sujet-là. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des managers top dans ma carrière.
Et dans la même veine, selon toi, que disent aujourd'hui tes collaborateurs? Quel retour tu as? Tu parlais du feedback à l'instant, que disent les personnes qui travaillent avec toi?
On me dit que je suis donc tourné vers le feedback, que je peux faire un peu mal à la tête sur mon envie de transformation parfois, donc j'essaye de me restreindre sur ça. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire le lien, donc que ce soit au sein de l'équipe RH de Chloé, au sein de entre les différents membres du comité exécutif, de leur représenter cette fonction RH et précisément la fonction développement RH, mais aussi au sein du groupe Richemont, parce que tu l'as dit, Chloé appartient à Richemont, et on a structuré et créé des fortes communautés, que ce soit sur le L&D, le talent management, vraiment différentes verticales RH, et on dit que oui, que je fais bien le lien.
C'est parfait. Ce que tu fais pour déconnecter, une fois sorti du travail?
Alors là, c'est un peu un deuxième coming out, mais je suis un gros geek. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, j'avoue. Donc je plaide coupable.
Ça vide la tête aussi, ça marche très
Exactement.
bien. L'appli dont tu ne peux pas te passer.
J'ai découvert récemment Blinkist, qui permet d'écouter des résumés de livres en un quart d'heure, ou des audiobooks ou des podcasts. Au début, j'ai crié au sacrilège, parce que c'était quand même vraiment passé à la boucherie des ouvrages. Et au final, donc c'est Richemont qui nous a offert ça. Et au final, c'est vraiment pas mal. Ça complémente bien ma boulimie de podcasts à côté. Et quand j'arrive à la fin de ma to-do list de podcasts de la semaine, ben on peut lancer Blinkist et écouter d'autres choses. Donc ça ne remplace pas l'ouvrage, mais ça permet de faire des petits résumés sympas ou de replonger dans des ouvrages qu'on a lus et peut-être un peu oublié, ça fait
Et
des
est-ce que tu
petits.
as redécouvert des ouvrages ou découvert des ouvrages récemment?
Ouais, ben on pourra en reparler, mais je suis assez fan des stoïciens et j'ai replongé dans les ouvrages de Ryan Holiday. Donc Ryan Holiday, c'est un Américain qui était ancien directeur marketing de American Apparel à l'époque et qui a du coup lui aussi une passion pour les stoïciens. Et il a écrit trois livres, une série de trois livres qui m'ont beaucoup marqué. Le premier s'appelle Obstacle is the Way, qui pourrait être peut-être mon mantra ou mon tatouage. L'objectif du livre, c'est de se dire que plus c'est compliqué, plus ça paraît difficile, plus il faut se faire violence et y aller et sortir de sa zone de confort, parce que c'est là qu'on aura la learning curve la plus intéressante. Le deuxième de ces livres, de cette trilogie, s'appelle Ego is the Enemy, et c'est de se dire qu'il faut arrêter de penser au qu'en dira-t-on, et vraiment se concentrer sur sa tâche et faire preuve d'humilité au quotidien. Et le dernier tome de la trilogie s'appelle Stillness is the Key. Et celui-ci, ça fait référence à un des principes des stoïciens les plus forts, qui est la citadelle intérieure, et de se dire que peu importe le contexte, le mouvement extérieur, etc., on peut toujours rentrer en soi et s'apaiser et se dire que on est maître de ce qui nous arrive et de ce qui se passe dans notre tête. Et notre corps. J'ai replongé tête la première dedans, encore plus avec le Covid, et ça m'a apporté une certaine sérénité. Donc,
J'imagine qu'en période de turbulence, ça doit
c'est pas mal.
aider à garder les pieds sur terre. Ton lieu ressource, un lieu qui te ressource ou qui te fait du bien.
Mon studio de yoga, je suis pas souple du tout, mais j'ai un studio de yoga qui est assez cocon. Avec des lumières infrarouges et un peu des musiques d'Instagrammeuses, mais en tout cas, c'est un vrai studio pour soi. Il fait une petite bulle, donc j'ai hâte qu'il réouvre un jour post-Covid.
Oui, j'imagine bien. Et puis rapidement, ton thème plutôt culturel, ton artiste préféré?
Alors, c'est aussi le monde d'avant, mais moi j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie musicale. C'était mon job étudiant pendant 4 ans, le rêve de tout étudiant. Et du coup, je travaillais dans toutes les salles de concert et tous les clubs parisiens pour installer un logiciel de billetterie dématérialisée. Donc, j'ai écumé tous les concerts et tous les clubs. Et là, j'ai un groupe que j'adore, un groupe français, qui sont devenus des amis d'ailleurs, qui s'appelle Pépite. Et que je recommande à 100%. C'est bien, c'est feel good. Et encore une fois, dans la période dans laquelle on est, c'est pas mal.
Le dernier point, est-ce que tu as des engagements en dehors de ton travail ou est-ce qu'il y a une cause en particulier qui tient à cœur, voilà, que ce soit associatif ou plus général, est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui te sont
Yes,
importants?
moi je suis assez réceptif à tout ce qui est. Lutte contre du coup les sans-abri et faire en sorte que tout le monde soit un peu plus inclus dans une cité au sens large. Et c'est vraiment la cause qui me parle le plus. Donc je participe à pas mal de maraudes dans mon quartier et une vie associative assez locale. Ouais.
D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette première séquence. On passe à la deuxième séquence qui s'intéresse à. Avant de devenir RH, finalement, voilà, qui étais-tu et comment aussi tu voyais la fonction? Alors, la première question que je vais te poser, c'est, tu l'as un petit peu évoqué, quel était ton tout premier job?
Et ben, c'était ça, c'était ce job étudiant dans le monde de la musique, vraiment de bac plus 1 à bac plus 4, à écumer toutes les salles, tous les festivals, etc. Ce qui fait que aussi, bah, je faisais beaucoup la fête et j'étais pas très très heureux dans mes études. Je savais pas trop quoi faire. J'ai eu un bac vraiment random. Je me suis retrouvé à Assas en droit et en économie parce que c'était une filière un peu ouverte, quoi, et ça me fermait pas trop de portes. Et j'étais assez malheureux jusqu'à mon master 1 en fait. Et à mon master 1, j'ai découvert les cours de RH. Avant, je me prédestinais plutôt vers du droit des affaires, et à chaque stage en cabinet d'affaires, je déprimais de plus en plus. Et heureusement qu'il y a eu cette révélation en master 1, avec ce cours de théorie des organisations, pour commencer, et après un cours de RH au semestre d'après. Et les deux ont vraiment bien résonné. Je me suis dit, tiens, bah, c'est ça que je veux faire. C'est pas du tout du droit des affaires, et c'est ça qu'il faut que je creuse.
C'était quoi qui t'a intéressé dans cette matière-là, où la révélation, elle s'est faite
Ben en fait, ça, tu sais, il y a des trucs parfois, ça te parle et ça résonne. Et c'est exactement ce que j'avais sur les œuvres que j'ai pu te citer avant, les artistes qui te touchent. Et moi, je suis assez dans le feeling et l'intuition. Et juste, je savais que c'était ça, en fait. C'était un non-sujet à partir du moment où j'avais commencé à découvrir ça. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille absolument dans cette voie-là. Donc, j'ai eu le. Bah, du coup, l'opportunité d'aller faire un Master 2 à la Business School de la Sorbonne, à l'IAE, donc sur RH et responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, c'était il y a 10 ans, et la RSE, on en parlait un petit peu, mais c'était un peu le début. Et surtout, c'était jamais rattaché à la RH. C'était un truc assez connexe. Et c'était assez intéressant de la part de la Sorbonne d'avoir déjà plugué ça à la RH. Et comme tu l'as dit, bah, j'ai commencé aux Galeries Lafayette ma carrière. Donc déjà un pied dans le retail et le luxe. Et c'est un peu ce qui a drivé ma carrière après. Ouais.
D'accord. Et avant de rejoindre vraiment le monde de l'entreprise, quelle vision tu avais de la fonction RH? Est-ce que tu avais des proches qui étaient dans les RH? Est-ce que c'était un domaine que tu connaissais ou vraiment pas du tout?
Pas spécialement de proches autour de la fonction. Donc justement, ça a été un peu dur de trouver des rôles modèles ou du réseau là-dedans. Et on pourra y revenir, mais c'est pour ça que j'ai adhéré très tôt à la NDRH. Moi, j'ai rempli tout ça à la fin du Master 2. En fait, j'ai rempli le dossier à la fin du Master 2 parce que je me suis dit, tiens, tu finis ton diplôme, tu commences ta carrière, mais il faut que tu gardes un pied dans une communauté qui va continuer à... Bah, t'augmenter un peu ta vision sur la fonction, à récupérer bah, des partages de meilleures pratiques et continuer à t'ouvrir les chakras sur les sujets RH. Et on en reparlera plus tard, mais si je devais résumer un peu ce que m'a apporté la NDRH depuis que j'y suis, c'est ça, c'est cette ouverture de chakras et pas rester enfermé que sur mon bout de la chaîne de valeur RH qui est celle du. Bah, plutôt du dev RH pour l'instant, mais être exposé aux relations sociales, au compound ben et à tous ces autres sujets qui ne sont pas dans mon périmètre pour autant.
Ouais. Donc enfin, l'association, ça te permet aussi d'élargir un peu les sujets et comment tu vois ton lien avec la NDRH aujourd'hui
Bah, alors ça va faire un peu cucu, mais moi pour moi c'est un lien que je n'ai pas envie de rompre. Enfin, je me vois adhérent tant que je suis praticien de la fonction. C'est important d'avoir une association qui continue à te nourrir et une association aussi qui porte les valeurs de la communauté et des praticiens à un niveau national. Et c'est ce que j'adore dans l'association, c'est cette représentativité de toutes les facettes de la fonction, que ce soit gros groupe, PME. Grande tour à la Défense ou province, c'est la force de l'association pour moi.
Oui, sa représentativité aussi, et puis ses groupes sur le terrain.
Exactement.
Ouais, tout ça. On se posait la question dans ton parcours professionnel. Tu as commencé aux Galeries Lafayette et après tu as fait plusieurs années dans le conseil. Et ensuite tu as rebasculé donc, sur des postes RH. Ce passage dans le conseil, qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi cette bascule finalement?
Carrément. Et en plus, ça, je pense que ça peut aider les jeunes diplômés ou les étudiants qui se posent des questions sur ça. Quand j'étais au Galeries Lafayette, j'ai travaillé avec des consultants sur toute une réorg d'un département et j'ai été assez ébloui par leur façon de faire, la méthodologie, leur façon de voir les choses et leurs jolis slides aussi, c'est vrai, parce que les consultants, ça fait des belles slides. Et je me suis dit, j'aimerais bien commencer ma carrière par ça. Donc en plus de la Sorbonne, j'ai fait le SCP après, vraiment dans une majeure stratégie conseil, avec un petit tour à Cornell aux États-Unis. Et en rentrant, j'ai intégré le conseil, donc chez Eurogroup et chez CIA après, en me disant, tu vas faire différentes petits bouts de la fonction RH et tu vas trouver celle qui te parle le plus, et tu vas voir plein d'industries, travailler en mode projet, apprendre à faire des jolis slides, etc. Et c'est justement en faisant du conseil que j'ai découvert la formation, puisque j'ai été staffé sur une mission pour EDF, pour ne pas le citer, pour aider à refaire toute la gouvernance de la formation. C'était pas du tout le sujet qui me parlait le plus à l'époque. Et c'est là aussi où vous voyez alors la mauvaise réputation que peut avoir la formation. En tout cas, moi, en tout cas, je l'avais ce biais-là à l'époque. Je me suis dit, oh là là, la formation, c'est poussiéreux, c'est le moins sexy peut-être de la fonction RH, etc. Parce que j'avais cette vision très, très paillette, où moi je voulais absolument aller sur le talent management par exemple. Je me dis, il faut que je gère les hauts potentiels, que je fasse les plans de succession, c'est le truc le plus cool. Et je me suis retrouvé sur la formation. Et au final, il y a plein de choses à faire dans le secteur. Pareil, j'avais une cliente super inspirante, donc je suis bien tombé. Ça reste vraiment une source d'inspiration encore maintenant. Et elle a réussi à élever le sujet assez haut, et j'en retiens encore plein de choses dans ma façon de voir le L&D encore actuel, et surtout la gouvernance et le qui fait quoi et l'écosystème apprenant en fait des organisations. Donc j'ai développé un peu cette expertise L&D déjà dans le conseil, et après j'ai été chassé par Unibail pour bifurquer là-dedans et pour restructurer toute la formation pour Unibail et l'académie existante.
Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a parfois cette question de se dire, quand on est jeune diplômé RH, est-ce qu'il faut que j'aille dans le conseil, est-ce que je vais m'enfermer, ou est-ce que des passerelles sont possibles. Et en tout cas, dans ton parcours, ça montre qu'on est même venu te chercher pour ces compétences-là aussi.
Yes. Donc, carrément. Et bah moi, je vous l'ai déjà un peu dit, moi je suis un late bloomer, j'étais à peu près moyen jusqu'à la fin de ma scolarité. Et je me suis vraiment épanoui en Master 2, Bac plus 6 et début de carrière parce que j'avais trouvé cette zone de flow de je suis aligné, je suis là où je dois être, je fais des choses que j'adore, qui ne me coûtent pas d'énergie parce qu'on est encore dans cette zone de flow. Et moi, ce que je conseille, c'est en effet de chercher, de tester plein de choses jusqu'à ce qu'on trouve cet alignement. Et après, une fois qu'on l'a trouvé, cet alignement, c'est très clair en fait. Tu sais que tu es exactement là où tu dois être et t'as plus qu'à dérouler, quoi. Et ça, j'ai la chance d'être dans ce track-là depuis quelques années. Donc,
et le reste suit.
pour l'instant, je touche du bois, mais pour l'instant, ça va.
D'accord. Et donc, au sein aussi du groupe Unibail, tu as été en charge d'un programme destiné donc, à des jeunes startups et en lien fort avec l'innovation. L'innovation, j'ai aussi l'impression que c'est très présent dans ton parcours, le fait de ce que tu disais, de transformer, d'aller chercher aussi ce qui va faire la différence et voilà, passer à l'étape d'après. Comment ça s'est passé, ce programme-là, ce challenge, on va dire? Comment tu l'as porté?
Yes. Donc, le Grand Prix Unibail, c'est un prix qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. C'est un des plus vieux prix qui vise à encourager l'innovation dans le commerce et le retail, avec une dotation assez incroyable de 1 500 000 euros à l'époque. Et là, l'objectif, et tu l'as dit, c'était d'aller trouver les jeunes retailers de demain, d'aller faire beaucoup de benchmarks, de visites, de trouver les tendances, un peu les concepts dans l'air du temps. Et c'était bien pour moi parce que c'était un projet très business, donc ça me sortait un peu du côté RH, et c'est ce que j'en retiens le plus aussi, c'est d'avoir travaillé. C'était directement rattaché au PDG d'Unibail de l'époque, d'ailleurs, ce projet. Donc, c'était de travailler avec lui sur quelle était sa vision aussi du commerce de demain, des centres commerciaux de demain, et qu'est-ce qu'il fallait essayer de ramener comme concept. Donc, ça m'a permis de travailler déjà ce côté partner, mais déjà niveau COMEX. Et l'envie, ouais, de continuer à innover et dynamiser un peu les pratiques d'un gros groupe du CAC 40. Donc là, c'était sur un sujet très, très business. Mais cette envie de dynamiser les pratiques tout court, c'est un peu ce qui me caractérise. Et je vous l'ai dit en intro, mes équipes me disent parfois qu'on se calme un peu dans le champ des possibles et qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en effet, moi, je crois beaucoup en l'amélioration continue. Je ne me vois pas faire un même process de la même façon l'année d'après. Il y a toujours des choses à améliorer, et c'est ce qu'on fait chez Chloé. C'est que là, vraiment, chaque année, on fait le point sur qu'est-ce qu'on a fait comme process RH, qu'est-ce qu'on a déroulé cette année, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, je sais pas, les comités carrières, on change chaque année la façon de faire, on itère sur les formulaires. Côté formation, cette année, on a arrêté la logique de plan de formation très classique. On part sur un plan de formation au fil de l'eau. Donc, ce qui change aussi la vie des apprenants et ça change la vie des RH parce que si vous posez 3 secondes sur ce process, donc sans rentrer dans un truc trop L&D, mais c'est le pire process de l'histoire RH, le plan de formation. Tu demandes à tes collaborateurs ce qu'ils veulent faire à un instant T. Ils ont 2 mois pour se prononcer. Après, les managers font des arbitrages. Toi, RH, tu fais tes arbitrages. Tu fais tes retours aux collaborateurs dans le meilleur scénario, 6 mois à peu près après son expression de besoin. Le temps que les sessions se planifient, que les personnes soient disponibles, etc. La personne, elle n'est pas formée. Meilleur cas, 1 an. Réalité, 1 an et demi entre le moment où il a exprimé son souhait. Et ça, c'est quand les budgets sont pas coupés parce que le Covid, tout ça. Du coup, en passant dans cette logique de vraiment apprentissage au fil de l'eau, nous, en tant que RH, on a fait du big data et on a crunché toutes les données des 3 dernières années du plan de formation réalisé. Et on prévoit cette volumétrie à peu près cible qu'on a besoin dans un plan annuel. Et on book toutes les sessions annuelles qu'on met à disposition sur notre plateforme et on dit à nos apprenants, allez-y, parcourez l'offre de la Chloé Academy et bookez ce qui vous intéresse. Vous avez le droit à une formation par an, peu importe ce que vous voulez, et vous êtes libre de vous former sur le sujet qui vous intéresse le plus. Donc vraiment une grosse transformation dans la façon 1 de gérer ton process RH. Et deux, d'améliorer ton expérience collaborateur, qui est un peu l'alpha et l'oméga, en fait, l'expérience collaborateur au sens large. Et ça marche plutôt bien.
Mais qu'est-ce qui te motive dans cette pédagogie-là et dans le fait de donner aussi la connaissance finalement au plus grand nombre? On voit que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi. Derrière tout ça, c'est quoi l'objectif pour toi? C'est quoi qui te motive dans ce poste-là?
Ce qui me motive le plus, c'est de réussir à améliorer le quotidien de tout le monde et surtout faire ressortir le maximum du potentiel des gens. Enfin, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'exercice du why de Simon Sinek, qui est un truc très classique maintenant. On peut le faire à un niveau individuel. Et moi, mon why, ma raison d'être, c'est de créer des relations fortes et authentiques avec les gens pour faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc ça, c'est ce qui m'anime au quotidien. C'est ce qui fait que le matin, j'ai de l'énergie ou pas. Et en fait, dans mon rôle de développement RH, j'ai un peu toutes les facettes de cette raison d'être. J'ai toute la culture de Chloé avec les valeurs de la maison, le modèle de compétences derrière, tout l'engagement des collaborateurs qui est super important. J'ai toute la gestion des talents avec la performance, le potentiel, les plans de succession et tout le learning. Et en ayant ces trois côtés-là, en fait, ça me permet de répondre à ma raison d'être. et d'être dans ce flow. J'en reviens toujours, c'est un concept qui m'est cher aussi, et c'est pour ça que ça se passe bien et qu'on a des pratiques un peu disruptives parfois, mais qui sont toujours pensées, un, pour les collaborateurs, et deux, on leur demande leur avis sur tous ces process, donc ils sont co-designés avec eux. Donc on a fait pas mal d'interviews collaborateurs pour la refonte du processus de formation. On en a fait pareil pour recréer les valeurs de la maison récemment. Et tout ça n'est fait que pour eux et avec eux aussi.
Et tu parlais donc, il y a évidemment un grand pan sur les compétences, la formation. Tu parlais aussi de culture. Comment ça se manifeste et comment en tant que RH, on influe sur la culture d'une organisation ?
Alors c'est très bien parce que c'est le sujet le plus frais du moment, et donc je suis très au clair sur ce que je pense qu'on peut faire en tant que RH. Donc tout part de la stratégie de l'organisation, en tout cas de la maison Chloé par exemple. De cette stratégie va découler des valeurs et des priorités, enfin de ces priorités stratégiques vont découler des valeurs. Ces valeurs, elles sont parfois très, très marques, très produits, très, très externes dans la façon dont elles sont formulées. Et c'est à nous, RH, de les retraduire dans deux choses. Les valeurs plutôt corporate, qui seront les valeurs pour nos collaborateurs. Donc chez nous, on appelle ça la Chloé attitude, d'un côté. Et ça, il faut que ce soit très intelligible et que ce soit des valeurs inspirante, mais que tu puisses incarner au quotidien, donc que ce soit assez terre à terre. Et de l'autre côté, de cette valeur plutôt de marque, doit découler l'Employee Value Proposition, donc l'EVP, qui est un concept relatif à la marque employeur et la façon dont on communique sur l'externe. Et donc il faut que tout ça soit bien aligné, donc c'est un beau château de cartes qui doit être assez solide quand même. Pour pouvoir communiquer en interne sur ta Chloé attitude et de l'autre côté sur ton EVP. Et dans un exercice comme ça, on travaille avec ma DRH et mon DG directement sur créer ce modèle, créer cette traduction. Et c'est là où les RH ont le plus gros rôle à jouer, en fait. C'est qu'on doit être leader sur ça, ça doit être porté par nous. Et après, co-construit avec le reste du COMEX, avec des focus group, avec les régions, etc. Et que ce soit du bottom-up aussi à ce moment-là. Et toujours valider, toujours ce principe de réalité, en fait, de travailler en chambre, c'est bien, mais faire tester et avoir de l'input terrain et pas rester que dans sa tour d'ivoire, c'est quand même mieux.
Et le fait de donner du feedback, par exemple, t'en parles beaucoup et c'est quelque chose qui est important pour toi. Comment ça s'inscrit dans cette culture-là aujourd'hui ?
La culture du feedback, c'est un de nos gros projets de l'année. Pour nous, on s'est lancé sur ça pour essayer de transcender un peu les limites du modèle de Chloé. On a une culture qui est très dans la bienveillance et la rondeur, qui est très alignée avec notre image externe d'ailleurs de maison. Et on a besoin d'aller au cran d'après, d'aller au niveau d'après, et de pouvoir se dire les choses, et de se dire que faire du feedback, c'est pas grave, faire du feedback correctif, c'est nécessaire aussi, tout en insistant aussi sur le feedback positif, qu'on sait très bien faire, et qui est très, très culturel chez Chloé. Mais l'objectif, c'était de préparer tout le monde à ça, et on se dit que tout le monde est plus armé si on sait faire du feedback correctif et ne pas en avoir peur aussi. Avec un objectif de créer un nouveau déclic qui est de plus seulement donner ou recevoir du feedback, mais surtout le demander. Parce que la transformation culturelle, elle se fait quand tu as réussi à inscrire dans les mœurs et dans le quotidien le fait de le demander, quoi.
Et l'un des pans aussi de la culture, tu parlais de la bienveillance à l'instant, c'est aussi le fait de se sentir à l'aise dans son travail. Et on évoquait en amont cet enregistrement un projet que tu mènes actuellement sur le fait de concrètement dire au sein de la maison Chloé que la maison est engagée en faveur du respect des personnes LGBTQ+, donc on pourra peut-être préciser à ce moment-là quand l'enregistrement sortira, d'où vient cette envie de s'engager en faveur des personnes LGBTQ+, au travail? C'est parfois un sujet un peu touchy dans le monde du travail, donc comment on s'en empare et comment on agit sur ce sujet-là?
Alors, sur les sujets DEI, donc diversité, égalité et inclusion, on avance beaucoup cette année. Et le rôle de Chloé est d'ailleurs va plus loin que celui de maison. On a envie aussi de transformer un peu le groupe Richemont à notre échelle et de contribuer un peu à cette transformation. Et l'un des focus de cette année, comme tu l'as dit, ce sera le sujet LGBTQ+. Et ce qu'on aimerait faire, c'est que, en fait, Chloé étant une maison de mode, on a une représentativité assez forte dans nos effectifs de population LGBTQ+, souvent out, enfin même 99% des cas out. Et en fait, dans la façon dont on le vit au quotidien, c'est presque un non-sujet. Je dis presque parce que ça l'est toujours. On a eu cette année, et ça j'en suis super fier, notre premier couple qui a été chercher leur fille issue de GPA aux États-Unis. Et à qui on a du coup donné le même congé qu'une naissance classique, entre guillemets, une naissance d'un couple hétéro. Et on a décidé de normaliser cette pratique et de faire que ça devienne la norme pour toute la population Chloé. Donc ça aussi, je trouve que c'est assez fort. Et on continue à avancer sur le sujet cette année. Ouais.
Avec cette idée aussi peut-être d'irriguer.
Exactement, tout à fait. Et de communiquer en interne, en externe et dans le groupe. Et en fait, moi j'aimerais que ce soit un non-sujet dans toutes les organisations, comme ça l'est chez Chloé. Et j'espère qu'on peut, à notre échelle, y contribuer un petit peu. Donc là, on parle LGBTQ+, mais sur l'égalité femmes-hommes, Chloé est quand même assez en avance aussi. Et on a pour projet de se faire certifier B Corp, là, dans les mois qui arrivent. Donc c'est une énorme certification, c'est un travail de malade d'un point de vue RH. Donc pour ceux qui nous écoutent, réfléchissez bien avant de vous lancer, parce que c'est des KPI RH assez durs à sortir. Donc on aimerait avoir cette certification B Corp et ce sera un tampon vraiment officiel de la qualité de nos pratiques RH vis-à-vis de l'extérieur aussi.
Une reconnaissance aussi externe là-dessus. Tu parlais au début de cette interview de la reconnaissance que la communauté RH t'a apportée, notamment avec le prix en 2017 du Next Leader Award que tu as reçu dans la catégorie des RH. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce type de reconnaissance? Tu as aussi différents prix, notamment dans le domaine de la formation aussi, que tu as reçu pour tous les projets que tu as lancés dans tes différents postes sur la formation digitale. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est reconnu aussi par sa communauté professionnelle?
C'est des super, super, super moments et qui se partagent avec son équipe. Ce que j'ai fait pour quasiment tous, sauf pour le Next Leader Award justement, et j'ai eu un peu plus de mal avec celui-là parce qu'il est intuitu personnel, enfin il est vraiment, il était propre entre guillemets, alors que tous les autres awards étaient plus relatifs à une équipe, une organisation. Donc je les ai tous très bien vécus, sauf a posteriori peut-être celui des échos au final, parce que je pensais pas du tout le gagner vu les personnes incroyables qu'il y avait en face, et du coup j'avais pas prévenu mon équipe que j'allais à cette remise de prix, et le lendemain se retrouver en une des échos et pas l'avoir dit à son équipe. Je me souviens, il avait assez mal vécu à l'époque, mais globalement c'est assez incroyable de recevoir tout ça. Et c'est quelque chose que globalement la fonction RH fait un peu mal, c'est communiquer sur ses succès. On est une fonction assez régalienne qui a tendance à s'auto-flageller pour ne pas assez bien faire les choses, etc. Or, on a quand même beaucoup à gagner à communiquer, enfin, communiquer sur nos succès, sur ce qu'on fait bien, et à partager aussi ces pratiques. Et donc là, on va atterrir sur pourquoi j'aime bien partager, etc. Parce que tout le monde a un peu les mêmes problématiques, et plutôt que de réinventer le fil à couper le beurre à chaque fois, partageons, capitalisons sur les pratiques, et surtout, il faut répandre les bonnes pratiques pour qu'on gagne tous du temps. Et c'est quelque chose que la NDRH m'a beaucoup apporté aussi.
Ce partage-là et gagner avoir un peu d'avance aussi sur, dans tes projets avec les retours d'expérience, j'imagine, des personnes qui l'ont fait avant toi. Ça aide là-dessus. Ta plus grande fierté professionnelle ?
Ma plus grande fierté professionnelle, elle est arrivée pendant le premier confinement. J'ai une collaboratrice qui était en CDD et à qui on avait acté qu'on allait la passer en CDI au mois de mars. Et du coup, au mois de mars est arrivé le confinement, les serrages de vis budgétaires dans tous les sens, et du jour au lendemain, on s'est retrouvé à avoir ce poste qui était clairement menacé. On a remué ciel et terre pour lui trouver quelque chose dans le groupe. Moi, j'ai activé tout mon réseau externe pour qu'on lui puisse trouver quelque chose, puisque en plus, elle est d'origine chinoise et son visa arrivait à expiration. Et donc en plus, c'était horrible sur plein de facettes. Après avoir remué ciel et terre, et après avoir pitché notre CEO sur le pourquoi du comment de ce poste-là était absolument à valider et à garder au budget, on a eu une ouverture de poste et on a pu la garder. Et c'est une de mes plus grandes fiertés. Parce qu'elle nous apporte énormément au quotidien, et en plus elle m'apporte à titre personnel beaucoup d'inspiration sur le fait d'avoir quitté son pays, sa famille, et d'avoir intégré l'EDEC, parce qu'elle a fait, l'EDEC, et avoir intégré Chloé après, d'avoir un niveau de français incroyable, et moi elle m'apporte une ouverture d'esprit de fou, donc voilà.
Donc, grande fierté.
Grosse fierté d'avoir bataillé pour ça.
Et à l'inverse, si tu devais revenir sur un moment de ta vie professionnelle où tu te dis que tu aurais peut-être fait autrement, ou un échec aussi dont tu as pu tirer un enseignement, mais quelque chose qui pourrait, voilà, dont tu t'es dit que peut-être si c'était à refaire, ce serait peut-être différent.
À refaire quelque chose de différent, j'essaierais d'être un peu plus patient, notamment dans. Ce que je pouvais avoir en tête après avoir fait du conseil ou à passer par Unibike, un environnement très rapide où tu es habitué à avoir une mobilité tous les 1 an et demi, 2 ans, toujours penser à la next step, etc. Si je pouvais m'adresser une lettre ou me donner un feedback maintenant, je me dirais: respire, t'inquiète pas, prends ton temps, ça va le faire. Exactement. Ce que je me dis beaucoup plus maintenant, je suis moins dans la course au prochain poste, etc. Je me donne un peu plus de temps.
Et c'est peut-être une question qui recoupe ce que tu viens de dire, mais si tu devais donner des retours d'expérience ou des conseils à des jeunes pros, des personnes qui sont dans leur premier job RH, peut-être en ce moment aussi, quel regard tu leur apporterais ?
Moi, je leur dirais d'explorer le plus de choses possible, de tester des bouts de la fonction sur lesquels ils n'avaient pas spécialement d'appétence non plus sur le papier, de se dire que tout peut être transformé, tout peut être modernisé, il y a encore plein de choses à faire dans la fonction. Donc, ne pas croire toujours challenger le statu quo, en fait. Se dire que c'est pas parce que l'existant ou le process est comme ça qu'on peut pas le transformer, le twister, en faire quelque chose de bien pour les collaborateurs et d'agréable pour l'équipe RH. Donc toujours challenger ça. Et surtout, se dire qu'une fiche de poste, c'est un bout de papier, et qu'il faut toujours y aller, prendre le poste, l'incarner et après pousser les murs. Essayer d'étendre un peu son périmètre, et de remonter un peu la chaîne de valeur RH, de gagner un peu des nouveaux projets aussi dans son organisation. Et c'est dur de commencer une carrière RH avec le contexte qu'on a actuellement. Moi, quand j'ai commencé un peu à pratiquer il y a 10 ans, bah, on sortait quand même aussi d'une petite crise. Ouais, j'avais cette petite boule au ventre de ne pas trouver mon dream job, etc. Et en fait, bah, ce dream job, on peut le créer partout où on va. Donc, à ces jeunes diplômés, je leur dirais de s'ouvrir les chakras, d'y aller, et après de pousser les murs une fois qu'on y est.
De ne pas hésiter, en tout cas.
Exactement.
Merci beaucoup en tout cas pour ces retours-là, et puis je te propose dans une dernière séquence qu'on ouvre un peu les questions et qu'on se projette aussi dans l'avenir. Je voulais savoir, tu en parlais à l'instant de la fonction RH, quelle est ta vision de la fonction et les enjeux à l'avenir là, que tu vois émerger pour cette fonction RH?
Moi, je pense que plus que jamais, le Covid a montré le rôle de la fonction et le fait qu'on soit vraiment en première ligne. Donc, ça a un peu remontré aux collaborateurs, les RH, ça sert à ça. Maintenant, on va quand même aussi devoir leur montrer qu'on ne fait pas que de l'activité partielle, de l'urgence, de la crise sanitaire, etc. Et continuer à insister sur la fonction dev RH, travailler... le développement et l'employabilité et l'upskilling de nos collaborateurs respectifs. Je pense que le binôme DG-DRH qui est bien remonté sous les projecteurs doit rester là. Moi, je rajouterais même un trinôme DG, DAF et DRH un gros, gros, gros pilier de la gouvernance de l'entreprise. Et dans un des gros sujets de priorité, ce serait quand même l'engagement des collaborateurs, bien prendre le pouls, bien prendre la température de tout l'écosystème de l'organisation. Et ça, c'est ce que Bicorp nous enseigne beaucoup, c'est de dire qu'il faut penser en termes d'écosystème, donc de faire attention à ses fournisseurs, de faire attention à ses clients finaux en boutique, de faire attention à vraiment le côté 360 de tout ça. Et si tout le monde commence à penser en termes d'écosystème, on en sortira tous grandis, et ça fera un cercle vertueux assez fort. Donc moi, je crois beaucoup au changement systémique et au fait que si tout le monde commence à penser un peu plus loin que le bout de son nez, ça ne fera que du positif.
De pas seulement s'arrêter aux limites aussi de l'organisation.
Exactement. Penser organisation élargie.
Exactement. Et comment ça se manifeste aujourd'hui pour Bicorp, par exemple, tu disais s'intéresser aussi aux prestataires, à ceux qui sont dans l'entourage. Comment ça se...
Carrément. C'est quelque chose qui est important dans le futur plan stratégique de Chloé. Donc Chloé a un partenariat avec l'UNICEF et on travaille vraiment à l'empowerment des femmes au sens large avec l'UNICEF et à notre monde de l'entrepreneuriat social. Donc on a tout un bout de gamme de sacs qui va être sourcé et fabriqué par des entrepreneuses sociales dans des pays en voie de développement. Qu'on rémunère de façon équitable. Et ce que j'aime bien dans l'approche, c'est qu'en fait, ce n'est pas qu'une perfusion on vous achète tel prix, etc. C'est qu'il y a du co-développement fort, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement de ces entrepreneurs locaux pour leur permettre d'arriver à de l'indépendance financière, à créer des bassins d'emploi locaux, etc. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment top comme initiative et comme mindset. Et on peut tous l'avoir. Donc là, je prends un exemple très, très luxe et très fashion, mais on peut tous réfléchir à notre sourcing de qualité, à nos partenaires qu'on décide d'avoir, aux relations qu'on peut avoir avec ces partenaires. Et on peut tous être acteurs à un niveau local, quoi.
C'est vraiment en tout cas l'avenir que tu vois et les enjeux d'avenir que tu as pour la fonction. Et puis, dernière question, ton avenir à toi, comment tu l'envisages?
Écoute, moi j'adore Chloé, je suis très aligné, j'adore le groupe Richemont. Pareil, je trouve que c'est une façon de voir de voir le luxe qui est pas tourné vers les choses qui brillent, mais vers le beau. Je pense que ce qui nous réunit au sein du groupe Richemont, c'est cette passion pour la beauté et pour le savoir-faire. L'ensemble des maisons du portefeuille mettent ce sujet de craftsmanship au centre de tout, des valeurs de la communication interne ou de la communication externe. Et je suis assez aligné avec ça aussi. J'aime bien ce côté ouais, savoir-faire, détail, etc. Donc, on me voit bien rester dans le groupe, sur du développement RH ou pas. Il faudra que je me frotte un peu à l'opérationnel RH que je n'ai pas encore fait dans ma carrière. Ou alors, il faudra que j'assume le fait de ne rester que sur du dev RH dans ma carrière parce que c'est là où je suis en flow. Donc, on va voir.
Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton temps, ton retour d'expérience et puis pour t'être prêté au jeu de ce podcast. Et puis à très bientôt. On vous donne rendez-vous pour l'épisode 3 dans un mois.
Merci beaucoup.